Catherine le matin. 106.9 Mauricie.
Que la Mauricie se lève.
Taken along by Radulov. Got it on back to the point, and another shot is blocked back down. They hustle back for it, and trying to get there, and get a trigger pull of a shot that went wide that time was Goodrow. And the Tampa Bay Lightning have won the Stanley Cup.
Confirmé hier soir en 6 matchs, le Lightning de Tampa Bay qui remporte sa 2e Coupe Stanley de son histoire. Alors, je pense qu'on peut dire que la meilleure équipe a gagné. Remarquez que les Stars ont connu tout un parcours. Faut pas négliger ça. Mais voilà, c'est terminé pour cette saison-là. Quelle série particulière. Salut, Martin McGuire.
Allô, Catherine.
Alors, c'est évidemment la ville bulle. Tu sais, ce qu'on a connu dans les derniers mois, en souhaitant qu'on revive pas ça 2 fois, mais on peut dire, tu sais, je disais à Serge un peu plus tôt, Martin, c'est une équipe de talent, le Lightning de Tampa Bay,
oui.
Sur papier et sur la glace.
Oui.
Mais psychologiquement, et ça a été souligné par Gary Bettman hier, ça prenait des gosses solides entre les deux oreilles aussi, là.
Écoute, 9 semaines de bulle au total. En fait, c'est 10 semaines parce qu'il y a eu des jours avant, là. Alors, c'est 10 semaines de bulle. On a fait au-delà de 800 tests. Il n'y a eu aucun cas de COVID. Ça, je pense que c'est la grande victoire de la Ligue nationale de hockey.
Oui.
Des bulles à Toronto et des bulles à Edmonton. On a été capable de sauver le produit. Les joueurs ont été de grands contributeurs parce que, Catherine, honnêtement, sur la glace, le show a été très bon. On se demandait si c'était pour être un peu tout croche, là. Tout ça, là, ces séries-là, à Montréal, au Québec, on a vécu l'entrée in extremis du Canadien avec presque un billet de fortune, un billet gratuit, là.
Oui.
Mais je pense que ça a donné le ton. Puis par la suite, la qualité du hockey a été au rendez-vous. Et l'équipe qui a gagné hier, Catherine, je pense que c'est une organisation qui fait bien les choses. On a raison d'avoir un petit peu de fierté au Québec parce qu'il y a beaucoup de Québécois là-dedans. Il y a des Québécois qui sont des décideurs importants de l'organisation. Il y a des Québécois qui ont joué sur la glace un rôle important. Le Lightning, c'est une bonne organisation. Si tu veux copier, là, si tu veux regarder un modèle puis dire, ben une équipe championne fait le travail comme ça, le Lightning, c'est une équipe sur laquelle il faut copier parce qu'ils font bien les choses. Ce qui est arrivé hier, ils l'ont mérité puis ont travaillé fort pour l'avoir.
Oui, absolument. Ils l'ont pas volé, comme on disait. Oui, vas-y, Martin.
Non, je t'écoute. Vas-y. Je t'en prie.
Je soulignais différents aspects de cette équipe-là, ce qui est quand même exceptionnel pour Patrick Maroon qui, 2 années consécutives, gagne la Coupe Stanley. C'est quoi? Est-ce que
comme
je me trompe?
Claude Lemieux.
C'est ça. À la dernière fois, c'est-tu Claude Lemieux qui avait réalisé l'exploit?
C'est Claude Lemieux qui avait réalisé l'exploit. Alors, il est seulement le deuxième. Tu sais, c'est un bel exemple, Catherine, de ce que Julien Brisebois a fait avec cette équipe-là.
Ouais.
L'année passée, ils se font balayer, ils se font humilier par les Blue Jackets de Columbus, l'une des dernières équipes à se qualifier pour les séries. Puis là, pendant tout l'été, il y a eu un vent de face très important contre Julien Brisebois parce que on disait, est-ce que John Cooper est encore l'homme de la situation? Tu sais, là, un balayage comme ça, Catherine, dans un marché comme Toronto, un marché comme Montréal, un marché comme Vancouver, où une équipe favorite, pactée, excusez l'expression, comme elle était, puis avec la saison qu'il venait de connaître, là, ça aurait probablement rimé à des congédiements après. Mais Julien Brisebois a gardé la tête froide. Vous allez me dire, c'est peut-être plus facile à Tampa Bay, mais peut-être pas autant que ça, parce que la pression, elle vient de partout. Il est bien supporté par un bon propriétaire, mais lui a continué à en croire en sa patente. Puis ça, c'était très important. Il a continué à en croire en John Cooper, qui est probablement un des meilleurs coachs de la Ligue nationale, puis je le dis pas seulement parce qu'il vient de gagner, là, je le pense depuis un certain temps. Alors lui, il a continué de travailler dans cette direction-là, puis là, il est allé chercher quelques ingrédients. Des gars comme Maroon, des gars comme Bogosian, des gros gars barbus, costauds, très forts, des gars qui avaient le goût d'en découdre physiquement avec les adversaires. Il a fait 2 transactions où il a payé cher, puis il a été critiqué pour ça, mais quand il est allé chercher Barclay Goodrow et Coleman, qui a marqué hier avec Braden Point, il a mis de l'enrobage autour de son noyau déjà très talentueux, puis les défaites frustrantes qu'ils ont vécues ont vraiment durci la couenne de ses joueurs de talent, les Palat, les Kucherov et compagnie. Il avait le goût de se battre cette année. Puis je pense que ça, c'est le crédit revient à Julien Brisebois parce que il n'a pas paniqué. Il n'a pas mis ses joueurs de talent sur le marché des échanges. Puis il n'a pas défait l'équipe.
Absolument. Martin, je veux qu'on parle, parce que là, bon, la finale est terminée, on s'enligne vers le repêchage, vers les joueurs autonomes et tout, et là, il y a des rumeurs, évidemment, qui circulent dans la Ligue nationale. Un Patrick Laine à Winnipeg serait peut-être disponible. Il y a une rumeur aussi entre les Sabres et les Rangers, puis ça pourrait concerner Lafrenière, c'est ça que je comprends?
Écoute, celle-là est assez intéressante, parce que hier, là, notre ami McKenzie de TSN avançait que les Rangers de New York ont appelé leur cousin de l'État, les Sabres de Buffalo, pour s'informer de la disponibilité de Jack Eichel. Si Jack Eichel était disponible pour une transaction. Le nouveau gérant général de Buffalo, Kevin Adams, a dit tout de suite non, il n'est pas à échanger. Mais quand on y réfléchit deux minutes, là, et qu'on se demande ce que les Rangers voulaient bien autour de Jack Eichel, à part, bien sûr, peut-être un autre joueur de centre, pour appuyer Zibanejad, là, pour avoir un excellent one-two punch au centre et devenir une équipe gagnante très rapidement. À part ça, là, on se dit, mais est-ce qu'ils auraient été prêts à sacrifier le choix à Lafrenière? Parce que c'est sûr et certain que si les Sabres de Buffalo avaient écouté plus que 5 minutes quand les Rangers les ont appelés sur Jack Eichel, c'est pas long que le nom de Lafrenière ou que le choix donnant accès à Lafrenière serait venu sur la table. C'est inévitable. Jack Eichel est un joueur, c'est le joueur franchise des Sabres, mais c'est un joueur d'élite dans la Ligue nationale. Alors, si tu voulais faire bouger Eichel, c'est clair que les Rangers avaient peut-être en tête de sacrifier le choix à Lafrenière. Ils ne le feront vraisemblablement pas, à moins qu'ils travaillent sur d'autres choses, mais ça débouche quand même sur des discussions intéressantes. On dirait que les Rangers veulent peut-être un peu brûler les étapes puis rentrer plus vite dans le cercle des gagnants. Puis dans le cas de Patrick Laine, on dit que le Canadien devrait s'y intéresser et je suis convaincu que le Canadien va s'y intéresser. Mais l'affaire que je me pose vraiment comme question, qu'est-ce qui passe dans la tête du directeur général des Jets pour vouloir échanger un gars qui, même en dormant, marque 30 buts par année? Dis-moi ça. Raison.
Je le sais pas. C'est pour ça que je me dis, pourquoi on veut le laisser partir? Moi, si je les Jets, je le garde. Là. C'est un de tes piliers. Je comprends pas, Martin.
Écoute, même en rêvant à tirer un joueur autonome de cette qualité-là, là, les Jets pourront jamais faire ça parce que, malheureusement pour eux, Winnipeg n'est pas une destination pour les joueurs autonomes de ce calibre-là. Alors, tu l'as dans ton organisation, mais ma foi, est-ce qu'on veut à ce point changer la chimie de l'équipe puis qu'on est prêt à sacrifier un gars de cette qualité-là? Je vous rappelle qu'il y a une année de 44 buts, là, ce jeune homme-là. Là. Puis il est encore très jeune. Alors, l'année passée, c'était 30, l'autre année d'avant, 44. Alors, il est peut-être dans le milieu de tout ça, là. C'est peut-être pas 44, puis c'est peut-être un peu plus que 30. Mais souvenez-vous ce que le Canadien a fait payer à Tampa Bay, à Vegas, pour un compteur de 30 buts assuré, qui était Pacioretty, là. Ça a coûté Suzuki, ça a coûté Tatar, et ça a coûté un choix également. Alors, si le Canadien veut se lancer dans une aventure comme ça, notre collègue Eki de la Gazette, hier, suggérait que Domi, qui ne peut pas nécessairement jouer au centre à Montréal, pourrait être l'option. Mais écoutez, si on veut déloger Laine de Winnipeg, ça va prendre beaucoup plus que Max Domi. Ça pourrait prendre certainement un choix de première ronde. Les Jets cherchent un défenseur en plus d'un joueur de centre. C'est peu probable que le Canadien réussisse un coup comme ça. Mais juste pour te tenir proche, au cas où M. Cheveldayoff aurait encore une autre crampe au cerveau puis qu'il se rendrait au bout de cet échange-là, ça vaut la peine.
Oui, absolument. Hey, Martin, le temps file un petit peu. 30 secondes sur Cole Caulfield, qui reste finalement dans la NCAA. S'en ira pas jouer en Europe?
Non, il y a eu des négociations là, pour qu'il puisse jouer en Europe, mais dans les derniers jours, La NCAA a mentionné que la division dans laquelle évolue son université, là, Wisconsin, pourrait jouer. Alors, il n'y a rien de confirmé, mais là, il s'entraîne déjà avec eux depuis 5-6 semaines. Puis honnêtement, je trouve que c'est encore sa place. Puis la bonne chose là-dedans, c'est que Caulfield va pouvoir jouer au championnat mondial de hockey junior pour les Américains. Ça va être sa deuxième participation. La première n'a pas été très spectaculaire. Là, il va être plus vieux, à 19 ans. Il va être plus solide. Le tournoi va avoir lieu dans la bulle d'Edmonton là, cette année, le championnat mondial de hockey junior. Alors, ça va être une bonne dose d'expérience pour Caulfield. Moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'il reste à l'université malgré tout.
Hey, Martin, avant de te laisser aller, là, ce qui s'en vient dans les dates là, qu'il faut retenir, là, le repêchage des joueurs autonomes, c'est quand exactement?
Bon, le repêchage, c'est le 6 et le 7 octobre prochain. Alors, mercredi suivant et jeudi, mercredi soir, ce sera la première ronde et le jeudi, à compter de 11h30 le matin, ce seront les rondes de 2 à 7. Et ensuite, l'ouverture du marché des joueurs autonomes est prévue pour le 9 octobre prochain et ça commence bien sûr à midi comme à chaque année. Alors, il va se passer beaucoup de choses d'ici là. Catherine, il y a des équipes qui vont devoir faire de la gymnastique et le grand écart même pour se conformer au plafond salarial de 81,5 millions qui va rester stable ainsi au moins pour 2 ans en raison des revenus. Alors, ce sont des dates importantes et surveillez ça. Il va y avoir beaucoup d'actions d'ici là et pendant ces dates importantes-là.
Bon, ben génial. Ben, ce qu'on va faire, on va se reparler. Là, on va choisir notre moment la semaine prochaine, mais c'est sûr qu'il m'a pas d'actualité. OK, génial.
Avec
merci,
grand
Martin.
Plaisir.
Salut, Martin.
Bonne journée,
bye-bye.
Catherine.
Bye-bye à toi aussi, Martin McGuire. Donc, bon, on lui a parlé aujourd'hui parce que là, la finale était hier, mais la semaine prochaine, à l'aube du repêchage des joueurs autonomes également, c'est clair qu'on va lui reparler.